Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.org. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, tu vas bien ?
Ça va bien et toi ?
Ma foi oui, hein, comme on dit toujours dès qu'on retrouve nos auditeurs, on se sent beaucoup mieux. Mais oui, ça fait plaisir, merci. Merci chers auditeurs de nous recevoir chez vous. Et puis voilà, on va vous parler de cinéma parce qu'on sait que vous aimez le cinéma. Mais oui.
Tout à fait. Et donc, pour démarrer cette semaine, c'est un film d'animation qui arrive. Alors, ce n'est pas un film d'animation. Ah oui, nous allons parler des Oscars. Des gens qui ont reçu des prix lors des Oscars de cette année 2022. C'est une cérémonie qui a été assez mouvementée.
Oh là, oui.
Alors, nous t'écoutons pour cette cérémonie des Oscars.
Oui, c'est la 94e cérémonie des Oscars qui se tenait donc le dimanche 27 mars 2022. En direct du Dolby Theatre de Los Angeles. On n'avait pas pu en parler plus tôt parce que ça ne correspondait pas à nos horaires et à nos dates ici en France. Voilà. C'était pour nous, c'était la nuit, hein, donc, quand eux travaillaient. Voilà. Et cette cérémonie a été marquée par la victoire de Jane Campion, qui est pour l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Et puis aussi, la cérémonie est marquée aussi par la grande victoire aussi de Coda. Coda, qui est un film adapté de la famille Bélier. Voilà. Et c'était celui-là, c'est l'Oscar pour le meilleur film. Et puis bon, oui, tu parlais d'un peu de mouvement. Tu disais que c'était un peu mouvementé. Oui, bon, parce que effectivement, l'acteur, le grand acteur qu'on connaît bien, hein, Will Smith. Ben, c'est un petit peu disputé avec le présentateur Chris Rock. Et ma foi, ben, il a giflé. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement entre eux. Mais...
Oui, mais on sait qu'il a fait une blague sur la femme de Will Smith qui a des problèmes.
J'allais y venir. Qui a des problèmes de santé
et qui a été interprétée.
Exactement. Mais à mon avis, il y avait quand même... Enfin, d'après...
Je pense qu'il y avait quelques...
Il y avait autre chose.
Quelques embrouilles avant.
Là, donc, ben, c'était un coup de sang. Hein. Il a eu un coup de sang. Et il n'a pas apprécié ce que tu viens de dire, une blague de Chris Rock. Parce que Chris Rock s'était adressé à l'épouse de l'acteur, qui était avec lui donc, dans la salle, pour lui dire qu'il avait hâte de voir la suite du film à armes égales, dans ce film pour lequel Demi Moore s'est rasé la tête en 1997. Or, il se trouve que, hélas, malheureusement, Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will Smith, souffre d'alopécie actuellement, c'est-à-dire qu'elle perd ses cheveux, et elle s'est déjà exprimée publiquement à ce sujet. Elle a d'ailleurs, à ce moment-là, levé les yeux au ciel en signe d'exaspération. Ben oui. Alors lui, ben Will Smith, du coup, c'est là qu'intervient son coup de sang. Hein. Il est monté sur scène pour donner une grande gifle à Chris Rock avant de se rasseoir et de lui crier quand même deux fois. Alors on va le dire en français, hein. Garde le nom de ma femme loin de ta putain de bouche. j'ai traduit littéralement la phrase et évidemment ça a provoqué la stupeur de l'Assemblée. Mais attention parce qu'on ne va pas aller plus loin là-dessus parce qu'il s'est excusé. Hein. Il s'est excusé, Will Smith, auprès de Chris Rock, pardon, il s'est excusé aussi auprès de l'Académie, des Oscars. Il s'est excusé auprès des participants, bien sûr, et il s'est excusé auprès des spectateurs du monde entier. Il a d'ailleurs qualifié lui-même son comportement d'inacceptable, d'inexcusable. Et ça, c'était au lendemain de la cérémonie. Donc, il a publié ses excuses sur son compte Instagram. C'est pas facile. Donc, c'était ce message d'excuse qui a été bien reçu, hein, qui était le bienvenu, c'est sûr, et qui a été bien reçu par tout le monde. Voilà. On imagine qu'effectivement, Will Smith, on sait qu'il est très amoureux de son épouse et que et c'est ce qu'ils appellent un coup de sang. Ça lui a, pouf, ça a vrillé dans sa tête. Il a eu l'impression que Chris Rock insultait, en quelque sorte, entre guillemets, son épouse, qui, elle, était évidemment, elle va très mal en ce moment, et c'était peut-être pas une bonne chose juste à ce moment-là, pendant une cérémonie. Voilà, donc, mais avec ses excuses, Will Smith nous prouve une fois de plus qu'il est quelqu'un de droit dans ses bottes. C'est un grand acteur et voilà, il s'est excusé. C'est pas mal quand même, dès le lendemain. Hein, dès le lendemain. Voilà, donc c'est pas des trucs agréables ça, à dire. Enfin, comme tout le monde en a parlé, bon. J'ai pensé que c'était peut-être mieux quand même de dire quelques mots. Voilà. Alors, de toute façon, il y a eu donc des gagnants, bien sûr. Hein. J'ai dit que pour le... Alors, on va commencer par la meilleure actrice quand même, peut-être. Hein. C'est plus... Je trouve que ça fait plus fair-play, non hein. Bah oui, après tout. Et toi, Damien, tu aurais peut-être commencé par le meilleur acteur. Mais moi, parce que tu es un garçon. Mais moi, j'ai envie de commencer par les filles. Non, je savais que tu allais le dire. Ah non, alors toi, pas du tout, non, ça c'est certain. C'était pour rire, je savais que tu allais le dire. Alors, meilleure actrice, Jessica Chastain, dans le film Dans les yeux de Tammy Faye. Voilà, il y avait en lice avec Jessica Chastain, on avait Olivia Colman, Penelope Cruz, pardon, on avait Nicole Kidman, on avait Kristen Stewart, des grandes actrices quand même. Hein. Bravo Jessica Chastain. Alors, pour le meilleur acteur, ben, on a Will Smith, parce que c'était lui qui devait l'avoir, cet Oscar, pour La méthode Williams. Tu te souviens qu'on avait parlé de ce film à l'antenne ?
Tout à fait, c'est sur l'histoire des sœurs Williams, Vénus et Serena.
Tout à fait.
Et de leur papa.
Et de leur père, qui les pousse depuis qu'elles sont toutes petites, etc. Ben ça, vous pouvez, je pense qu'on peut l'avoir dans les podcasts encore. Hein. La date n'est pas très ancienne. Donc on peut l'avoir, l'émission dans laquelle on parle justement de la méthode Williams. C'est assez intéressant. Alors en lice, il y avait Javier Bardem, il y avait Benedict Cumberbatch, il y avait Andrew Garfield et il y avait Denzel Washington, bon pareil, des grands comédiens. Mais il faut toujours un gagnant, donc à un moment donné, il faut départager tous ces gens talentueux. Et puis il y a eu le meilleur acteur dans un second rôle, bah, cette fois on va commencer par le monsieur, c'est Troy Kotsur qui a reçu l'Oscar pour le film Coda. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la reprise adaptée de la famille Bélier. Hein, qui est sorti chez nous en France. Alors, il y avait Jesse Plemons, il y avait J.K. Simmons, il y avait Cody Smith McPhee et Ciaran Hinds dans les autres candidats. Mais c'est lui qui l'a eu, Troy Kotsur, qui est quand même assez extraordinaire dans son film, là, dans Coda. Et puis, meilleure actrice dans un second rôle, c'est Ariana DeBose dans West Side Story, dont on avait parlé ici à l'antenne aussi, bien sûr. Il y avait Jessie Buckley, il y avait Judi Dench, il y avait Kristen Dunst. Ah, ben, on la connaît bien. Elle. Il y avait Anne Hanou-Ellis également, donc, qui espérait avoir ramassé cet Oscar. Ariana DeBose, ah oui, assez extraordinaire d'ailleurs hein, dans West Side Story. Elle est non seulement elle a plein de talents, mais elle est très, comment dire, elle a un physique très 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 jolie. Elle est très jolie, hein. Très avantageuse, j'allais dire. Et puis la meilleure réalisation, on en a parlé tout à l'heure, Jane Campion, pour le film The Power of the Dog. Et il y avait Kenneth Branagh aussi, il y avait Ryusuke Hamaguchi. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps d'Hamaguchi, de ce réalisateur. Lui, c'était pour Drive My Car, qui a eu un succès fou d'ailleurs. Il y avait Paul Thomas Anderson et il y avait Steven Spielberg pour West Side Story aussi, qui concourait pour avoir l'Oscar. Et Jane Campion a remporté le Grand Prix, le Grand Oscar, voilà. Et puis, alors dans les meilleurs films, donc on l'a dit, c'est Coda, hein, la famille Bélier, c'est la même adaptée de la famille Bélier. Avec Philippe Rousselet, il y avait Fabrice Gianfermi, puis le producteur aussi Patrick Vaxberger. Voilà, le meilleur film, il y avait Belfast qui concourait, il y avait Drive My Car, bien sûr, il y avait Dune. Ah, Dune, on avait parlé aussi. Il y avait la méthode Williams, donc, qui concourait, le film. Il y avait The Power of the Dog, c'est celui qui a gagné. Donc, elle concourait, elle a gagné. Voilà, tout ce qu'il y avait. Meilleur film. Alors, parce que j'avais envie d'en parler, parce qu'on en parle souvent pour nos petits et nos grands, d'ailleurs, aussi. Meilleur film d'animation, c'était Encanto qui a gagné. On en avait parlé d'Encanto, hein. On en a parlé de celui-là. Oui.
Tout à fait.
Oui, Encanto, oui. Je ne sais plus trop qui était le réalisateur, mais je sais qu'on en a parlé. Il y avait Flea qui concourait. Il y avait Luca. Il y avait les Mitchells contre les machines. Il y avait Raya et le dernier dragon qui concouraient pour le meilleur film d'animation. Il y avait ça, bon. Et puis, comme on parle souvent aussi ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers, de documentaires quand même, hein, parce qu'on s'intéresse beaucoup aux documentaires, il y en a qui sont absolument magnifiques. Alors, le meilleur film documentaire, c'est Summer of Soul. On en avait parlé également, d'ailleurs. Il y avait Ascension qui concourait, Attica, Flea, Waiting with Fire. Voilà, et puis, voilà. Après, bon, les courts-métrages, tout ça, il y a eu, mais ça, bon... On en parle beaucoup moins, puisque nous, on parle de longs métrages, bien sûr, hein, puisqu'on aime aller au cinéma, et qu'au cinéma, on peut voir les documentaires et les longs métrages. Après, pour les courts métrages, c'est un petit peu spécial. Il y a de temps en temps, une fois par an, je pense d'ailleurs, il y a un festival courts métrages. Il suffit de trouver les cinémas où on peut les voir. Et ça marche toujours très très bien, le festival des courts métrages, parce qu'il y en a qui sont magnifiques, hein, absolument magnifiques. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire quand même sur cette cérémonie des Oscars. Voilà, c'était Jane Campion qui est la grande gagnante quand même. Bon, ma foi. Puis cette histoire de Will Smith qu'on oubliera parce que c'est un excellent acteur. Et on dit, parce que nous on ne le connaît pas personnellement, mais on dit que c'est quelqu'un de tout à fait charmant dans sa vie, dans la vie courante aussi, et qu'il est toujours prêt à répondre aux journalistes, à répondre aux interviews d'une façon extrêmement aimable. Donc là, on peut vraiment appeler ça un coup de sang. Complètement, c'est ce qu'on appelle un monsieur amoureux de sa femme et qui n'a pas envie qu'on se moque d'elle.
C'est ça, voilà pour les Oscars donc, de cette année.
Les Oscars de cette année.
Et donc maintenant, nous allons vous présenter les films qui sortent cette semaine dans les salles obscures. Et on commence avec un film d'animation. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Oui, merci.
Hé, toi, viens un peu par là. Ah ouais, d'accord. Tu as peur parce que je suis le grand méchant loup. Le méchant de toutes les histoires. Voici ma bande. Mademoiselle Tarentule, Monsieur Requin, Monsieur Piranha, Monsieur Serpent.
Vous me recevez ?
Bien sûr.
Bien reçu.
On est les bad guys.
C'est l'heure du crime, bébé. Requin, fais diversion.
J'ai le droit d'improviser ?
D'accord, mais sois subtil.
Je suis en train d'accoucher ! Il y a un médecin dans la salle ou encore mieux, des agents de sécurité qui pourraient abandonner leur poste pour venir m'aider !
On ne nous a jamais laissé la moindre chance d'être autre chose que des crapules. Mais ce sont les cartes qu'on nous a distribuées, alors autant jouer avec. Attendez, laissez-moi vous aider. Tout va bien, madame ?
Oh, vraiment, merci. Vous êtes un si gentil petit gars.
Mais je... Quoi ?
I'm a bad guy.
C'est bon, frérot ?
Oh, c'est bon, ouais, ouais. Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait si les gens n'avaient pas peur de nous ?
Ça n'arrivera jamais.
Les amis, on va devenir gentils.
T'as pris un coup sur la tête ?
Ces méchants ont un problème d'image. Vous avez besoin d'un relooking.
So cool, mais non.
Là, notre réputation, elle est mal.
J'en ai marre d'être un paria. Peut-être que j'ai plus envie d'être...
Quoi ?
Un bad guy ?
Vous allez devoir choisir entre vos amis et une belle vie.
Ce sont les seuls amis que j'ai jamais eus.
Vous avez une chance de pouvoir écrire votre propre histoire. Qu'avez-vous à perdre ?
J'en sais rien, ma dignité.
Oui, eh bien, de ce côté-là, le mal est fait.
So you're a tough guy, like a really rough guy.
C'est un labo d'expérimentation animale plein de cochons d'Inde sans défense.
Je vais les libérer.
Je t'ai jamais vu te porter volontaire.
Wow.
Allez, serpent, ouvre.
C'est bon, leurs portes sont compliquées.
Serpent, c'est une blague ou quoi?
On est censé les sauver, pas les manger.
Ouais, ben, ils ont quand même rejoint un monde meilleur.
On a pas ça.
Bad guy, oui, donc, bad guy. C'est de l'animation, oui. De l'action et de l'aventure.
Et de l'humour. On traduit d'ailleurs les bad guys, ça veut dire les méchants mecs. Tout simplement. C'est le premier long métrage de Pierre Péritel, qui est un réalisateur, animateur français. Il a 17 ans de carrière. Pardon. 6 tournages à son actif. C'est-à-dire, il y a 5 courts-métrages, voilà, entre 2004 et 2018, et un long-métrage, celui dont on parle en ce moment, Les Bad Guys. Alors, Les Bad Guys, c'est la nouvelle
en
comédie.
En proposant une.
C'est la nouvelle comédie, en fait, d'aventure, hein, de DreamWorks Animation. C'est inspiré par la série du même nom, de livres pour enfants. Il y a toute une série pour les enfants. C'est une série d'ailleurs à succès qui met en scène une bande d'animaux redoutables, criminels de haut vol, qui sont sur le point de, en fait, là en ce moment, ils sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant, devenir des citoyens respectables. Est-ce que, alors, pour devenir gentil, est-ce qu'il faut recevoir un coup sur la tête ? À un moment donné, on entend le personnage. Damien, pour être gentil, est-ce que tu reçois des coups sur la tête ?
Non.
Non ?
Non.
Tu y arrives comme ça ? Bon, alors, alors écoutez, mes chers auditeurs, oui, je confirme, hein, il ne reçoit pas de coups sur la tête, il est gentil. C'est pas un bad guy, hein, c'est pas un bad guy, voilà. Donc, en fait, les livres, ce sont des livres australiens, en fait, j'ai pas dit, les livres pour enfants. Alors, ces 5 compères, ils sont 5, sont tristement célèbres pour leurs aptitudes respectives au crime. Ben oui. Alors, Monsieur Loup, il y a le fringant pickpocket, c'est lui. Monsieur Serpent, c'est le perceur de coffre-fort blasé. Monsieur Requin, c'est l'expert en camouflage au sang très, très froid. Monsieur Piranha, le gros bras excessivement soupolé de la bande. Et Mademoiselle Tarantule, la pirate informatique dont les talents de hacker sont aussi aiguisés que sa langue. Alors là, mais après des années d'incalculables méfaits, ceux qui sont devenus sans conteste les malfrats les plus recherchés du monde finissent par se faire arrêter. Monsieur Loup conclut alors un marché qu'il n'a évidemment pas l'intention d'honorer, afin de s'éviter, ainsi qu'à ses compères, bien des années de prison. Les bad guys vont devenir honorables. Ouh. Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon d'Inde aussi adorable qu'arrogant, le professeur Marmelade, les bad guys sont bien partis pour rouler leur monde et faire croire à tous qu'ils ont changé. Mais ce faisant, Monsieur Loup commence à comprendre que faire vraiment le bien pourrait être la clé de ce qui lui a toujours manqué, la reconnaissance. Alors qu'un nouveau méchant s'en prend à la ville, va-t-il pouvoir persuader ses acolytes de le suivre sur le chemin de la rédemption et de devenir enfin des gentils ?
Vous le saurez en allant au cinéma.
Oui, animation, comédie, hein, bien sûr, c'est ce que tu as dit. C'est pour la famille, il y a de l'aventure. Alors, on nous dit que c'est à partir de 6 ans. Moi, j'ai déjà appelé ma petite copine Naya, à tout hasard, pour qu'elle emmène son petit frère. Moi, je pense que... Ouais, à partir de 6 ans, s'ils le disent... Quand même, c'est américain, hein, je ne sais pas si on l'avait dit. En tout cas, l'humanisation des animaux est souvent présenté dans le cinéma d'animation. Et lui, Pierre Périphel, explique pour quelles raisons. Cela permet de mettre une légère distance quand on parle, en fait, de nos problèmes d'êtres humains. Au niveau animation, on peut les humaniser. Cela nous permet de les animer d'une manière plus poussée et plus caricaturale. Et cela libère vraiment notre animation. Et ça permet de mettre en avant, ajoute-t-il, des émotions encore plus fortes. Ce que l'on a fait avec les bad guys, c'est vraiment un mélange entre le monde des humains et le monde de ces animaux. Ces animaux sont une métaphore du méchant qui n'est pas vraiment méchant. Voilà ce que nous dit Pierre Péritel, le réalisateur, animateur français. Voilà. Il est connu d'ailleurs, Pierre Péritel, pour son travail chez DreamWorks Animation. J'en ai parlé tout à l'heure, les aventures de DreamWorks Animation. Il est connu pour ça, lui. Il a eu des courts-métrages très primés, d'ailleurs, hein, comme réalisateur, quand même. Oui. Et il a écrit, on peut lire, « C'est si cool d'être méchant ». À un moment donné, eh ben non, justement, pas là. Voilà, ça dure 1h40. Alors, on a les voix de Pierre Ninet, en français, de Jean-Pierre Zadi et de Igor Gottesman, qui sont eux, là, tous les deux derniers des habitués hein, du doublage. Voilà pour les bad guys. Mes enfants, hein, bonne séance avec vos parents ou vos grands-parents, vos grandes sœurs. Tout ça.
Bad guys, donc, ça sort aujourd'hui. Et maintenant, c'est le retour d'un duo célèbre de réalisateurs français, connu pour leur cinéma burlesque et qui est de très incisif et donc on retrouve Gustave Kervern et Benoît Delepine pour leur nouvelle réalisation qui s'appelle En même temps.
Oui, et oui, En même temps, c'est une comédie donc française. Oh, on est content. Moi, je suis content de retrouver toi aussi, je pense. Gustave Kervern qu'on connaît bien quand même comme cinéaste. On est très content. On le connaît comme acteur aussi, il est excellent. De toute façon, il est excellent dans à peu près dans tout ce qu'il fait cet homme-là, réalisateur, scénariste. Il est acteur, donc je l'ai dit, 59 ans, 25 ans de carrière. Il a quand même 49 tournages à son actif. Et il a réalisé à peu près 11 longs-métrages, un court-métrage aussi entre 2003 et 2020. Et puis, il y a 37 tournages comme acteur. Et il y a 5 longs-métrages qu'il a produits, lui. Parce qu'il peut être aussi producteur. 6 prix et 32 nominations. Voilà ce qu'il a, ce monsieur. Eh bien oui, moi, par exemple en 2012 on avait eu, 2010 d'abord, ah oui un film formidable. Oh mes chéris, si vous ne l'avez pas dans vos vidéothèques c'est bien dommage, surtout si vous aimez Gérard Depardieu, ça s'appelait Mammouth. Et c'est sorti en 2010 hein, avec Gérard Depardieu, Yolande Moreau, il y a 4 nominations et un prix, c'était le coup de foudre à Cabourg d'ailleurs, en 2010, Mammouth c'est extraordinaire. Et puis en 2012, on a eu Le Grand Soir aussi avec Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel. Pareil, prix spécial du jury à Cannes en 2012, et il y avait 6 nominations. Et puis en 2020, on a regardé Effacer l'historique avec Blanche Gardin et Corinne Maziero, qui a reçu donc l'Ours d'argent. Voilà, Effacer l'historique, très très chouette. Et puis Benoît Delepine, oui, tu as parlé de lui, réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 63 ans, 46 ans de carrière, il a 26 tournages à son actif. En fait, il est en co-réalisation avec Gustave Kervern depuis presque toujours. Il a eu 5 prix et 24 nominations. C'est une grosse, grosse collaboration entre les deux, là. Vraiment. Alors, en même temps, qu'est-ce qui se passe dans cette comédie ? À la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire, le maire de droite décomplexé essaie de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, mais contre leur gré, évidemment, on imagine. Alors, on a Vincent Macaigne et Jonathan Cohen, qui sont justement les deux filous là, de la politique. Eh bien, oui, On a India Air aussi dans les rôles. On a Jenny Bess. On a Thomas VDB. Oh, bah, Thomas VDB, on l'aime beaucoup. Il a beaucoup de talent comme acteur, lui. On a Laetitia Doche. On a Anna Mouglalis. On a Douli, Anne Benoît, François Damiens. Oh, on est content de le revoir. Notre belge, notre acteur belge préféré. On a Yolande Moreau également. Bah oui. Un joli, joli, joli casting, c'est sûr. Alors, c'est la nouvelle comédie absurde, hein, on peut dire ça comme ça, de Gustave Carverne et Benoît Delépine. Le film qui se moque des hommes politiques juste avant les élections. On peut peut-être en rire. Voilà. En même temps.
Et on écoute la bande-annonce de ce En même temps.
Merci.
En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut.
Bonjour, cher ami.
Bonjour, connard.
Hein ?
T'en as pas marre d'emmerder les Français ?
Alors, cher collègue ?
C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way.
On s'amusait plus avec l'ancien maire.
Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille ? Non.
Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des deux golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça ? Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape.
Allez, top. Hop ! Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres.
Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là.
Girl power ! Pas le sexe fort ! Pas le patriarcat !
Je les ai collés tous les deux, ensemble, quoi, l'un derrière l'autre.
Vous m'avez violé !
Non, elle nous a collés !
Gauche, droite, gauche, droite.
Oh, 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 bouge pas !
La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi ? Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède.
Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby.
On a un bel exemple.
Excusez-moi, est-ce qu'on a un vidéo surveiller les vaches ensemble ?
Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viandes.
C'est vraiment devenu intenable ! Intenable !
En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait.
Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries.
Crois-moi, je vais changer.
Tu commences à me plaire de plus en plus, toi.
Stance légèrement ouvert, comme ça. Appuie sur la droite légèrement aussi. Et...
Alors, en même temps, j'ai hâte de voir ce film, et notamment le rôle de François Damiens,
oui.
Qui a l'air... intenable.
Oui, complètement.
Voilà donc, en même temps.
En tout cas, mes chéris, si vous aimez rire un peu, hein, en regardant les hommes politiques s'amuser et faire, hein, voilà, eh ben, ce film est pour vous. Hein,
oui, parce que c'est pas souvent qu'on rigole avec les hommes politiques.
Ben voilà, donc pour une fois, je pense que... Et puis bon, le casting est impeccable. Hein, bon, ils sont super, là, tous là-dedans.
Et maintenant, nous allons retrouver un ami de Gustave Carverne et Benoît Delepine. Oui. C'est Benoît Poulvorde qui est dans un film pas drôle du tout. Ça s'appelle Inexorable, oui, et c'est réalisé par Fabrice Duwels.
Tout à fait. C'est un thriller d'1h38, français et belge. Il a une nomination au Festival du cinéma américain de Deauville 2021 dans la catégorie « Fenêtre sur le cinéma français ». C'est interdit aux moins de 12 ans, ça il faut bien le noter, c'est dit, voilà. Et puis tu as dit, oui, Fabrice Duwels, qui est un réalisateur, scénariste, acteur, coproducteur, il est belge, il a 49 ans, 22 ans de carrière, 9 tournages à son actif, dont un court-métrage d'ailleurs en 1999, qui avait eu le prix Canal+ du court-métrage fantastique. Ça commençait bien pour lui. Il a donc 4 prix et 14 nominations à son actif. Alors, on lui doit, en 2005, un premier long-métrage d'épouvante et d'horreur qui avait très, très bien marché, qui s'appelle Calvaire, qui a eu 3 prix et 3 nominations. Il y avait Laurent Lucas dedans, il y avait Jackie Berroyer, entre autres. Et puis, en 2014, on lui doit Alléluia, qui a eu 5 nominations et un prix spécial frisson de long-métrage. C'était du drame, du thriller, d'épouvante, avec Laurent Lucas encore, et ben oui. Et Lola Duenas, qui est une actrice espagnole. Donc, il sait faire. Hein, à chaque fois, il est primé pour ses films. Il sait faire ce genre. Il est tout à fait bon dans ce genre-là. Et là, c'est quoi alors? Après Adoration, qui est sorti en 2020, qui est un thriller et un drame avec Fantine Ardouin et Benoît Poelvoorde aussi, eh bien oui, deux acteurs belges, une histoire de folie et d'amour. Donc, après ce film, on a droit donc à Inexorable. Et oui, le dernier, je voulais en parler parce que... Mais je crois qu'on en avait parlé, mais oui, ça me dit quelque chose, Adoration, thriller, drame. Ouais, on avait dû en parler en 2020, quand il est sorti. C'était un film belge et français. Ouais. Ouais, il fait du bon boulot, décidément, Fabrice Duvels, dans ce domaine. C'est sûr, là. Donc là, à la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Belma, qui est un écrivain à succès. Et il y a également leur fille qui s'installe avec eux. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s'immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l'ordre des choses. Point de suspension. Alors on a Benoît Poelvoorde dans le rôle principal, enfin le rôle de Marcel, le célèbre éditeur. On a Mélanie Douté qui, elle, joue le rôle de Jeanne, qui emménage dans cette maison familiale. On a également Abba Gara Bellucci qui joue le rôle de Gloria. On a Anaëlle, excusez-moi, décidément, je suis trahie par mes cordes vocales. On en a que deux, mais elles sont très embêtantes parfois. Alors Anaëlle Souella, j'allais le dire là. On a Jackie Berroyer aussi. On a Catherine Salé. On la connaît. On les connaît quasiment. Hein. Quand on les voit, on les a déjà vus. C'est un joli casting. Tout à fait, pour ce genre de thriller. C'est étonnant, le rôle de Jackie Berroyer est assez étonnant là-dedans. En tout cas, on peut dire que Benoît Poelvoorde devient un petit peu l'acteur fétiche de Fabrice Duvals, ainsi que Laurent Lucas d'ailleurs. Deux acteurs qui font beaucoup tourner. Inexorable. Si vous aimez les frissons, c'est pour vous.
Et Anne, est-ce qu'on se met dans l'ambiance de ce thriller?
Mais oui!
Allez!
Oui, allons-y! J'ai peur, vas-y! J'ai très peur.
Comment est-ce que vous abordez la suite de votre travail?
Mais de toute façon, un auteur ne doit pas penser à ça. On écrit d'abord parce que c'est vital.
Marcel, viens voir!
Présentez Gloria.
Tu crois que je peux demander à Gloria de s'occuper de la petite?
J'aime beaucoup ce que vous faites.
Pourquoi vous m'avez lu?
Surtout Inexorable.
Waouh, t'es trop belle.
Je te sens pas heureux.
Ni heureux ni malheureux.
Chocottes.
Voilà la bande-annonce. Je suis pas super fan de ce genre de film, les thrillers, mais c'est vrai que ces bandes-annonces-là se montent toujours en pression. Tu sais pas, mais oui, rien que la...
Merci pour les chocottes.
Rien que la bande-annonce, ça te glace dans le dos.
Mais pour ceux qui aiment ça, et je sais qu'il y a des auditeurs qui aiment...
Énormément.
Là, il faut pas louper celui-là, parce qu'il est bien fait en plus. Puis alors, les acteurs, il n'y a rien à dire de plus. Quoi. Ouh là.
Et maintenant, nous allons changer de style tout à fait avec un film réalisé par Philippe de Chauveron pour la troisième fois. C'est la troisième fois. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Voilà le retour de la famille.
Ben oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'était en 2014 d'ailleurs, en avril 2014. Il y avait quand même eu 12 millions, un peu plus de 12 millions. Oui, 12 400 000 entrées quand même. Et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? C'était en 2019. 6 millions 700 000 entrées. Voilà. Eh bien oui, quand même, il a été dans le top 10 des plus gros succès de l'histoire du cinéma en France. Hein. Le premier déjà. Ouais. Dans le top, pas le top 10, hein, le top 100. J'ai dit 10, mais c'est 100. Le top 100 des plus gros succès voilà, du cinéma en France. Voilà. Donc là, ben, de toute façon, on reprend les mêmes acteurs. Hein. On les a tous. Je crois qu'on en a en plus quand même. Enfin, on va voir ça, mais il y en a deux ou trois qui ne sont pas dans les deux autres. Donc, tu as dit, hein, Philippe de Chauvron, il y a Guy Laurent, le scénariste aussi, qui a donné son coup de patte, hein, si on peut dire, pour un scénariste. Ils écrivent quand même, les scénaristes. Donc, Chauvron, oui, il est réalisateur, scénariste, dialoguiste. Il a 56 ans, c'est un Français. Il a 26 ans de carrière, 18 tournages comme réalisateur et scénariste. Et il a un prix et 7 nominations dans sa carrière, là. Il est lauréat des Lumières de la presse étrangère en 2015 pour le meilleur scénario. Et oui, il a eu ça quand même. En 2011, on a l'élève du Cobu, hein, qui a 4 nominations avec Elise Moon et Vincent Claude qui jouaient le premier du Cobu. Ensuite, on a eu les Vacances de du Cobu en 2012. L'année suivante, avec Elise Moon, et c'était là, Ducobu était joué par François Viette. En fait, ils ont changé les acteurs parce que d'une année sur l'autre, le petit comédien, le jeune comédien, avait trop grandi. Il avait trop. Donc, il ne pouvait plus jouer le rôle. Non pas, c'est pas parce qu'il n'était pas satisfait de lui, hein. C'était vraiment à cause de son physique, en fait. Hein. Donc, ils en ont pris un autre. Et puis, en fait, c'est. Tout ça, c'est Philippe de Chauvron, mais après, Elise Moon a pris la suite des Ducobu, lui. Hein. C'est lui qui, après, a réalisé le Ducobu 3 en 2020. Et là, Ducobu est joué par Mathis Gros, c'était encore un autre, mais cette fois, c'est avec Elise Moon comme réalisateur. Et on aura probablement le 13 juillet 2022 Ducobu président, qui est prévu. Il devait sortir en 2021. Bon, il est prévu à ce moment-là. Donc, réalisé par Elise Moon. On verra ça à ce moment-là. Alors là, bon, bah, ça dure 1h36, cette comédie française. Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs 4 filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres. Pour quelques jours, eh oui, Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles. Ce séjour familial s'annonce mouvementé, on s'en doute, parce que les deux premiers étaient quand même déjà relativement mouvementés tout de même. Alors on a les mêmes, hein, Chantal Lobby, Christian Clavier, qui sont donc Marie et Claude. On a Rachid, c'est toujours Mehdi Sadoun. Chao, c'est Frédéric Cho. David, c'est Harry Habitant. Charles, c'est Noum Diawara. Et puis on a... Alors, dans les filles, ce sont les mêmes. Pas tout à fait, justement. On a Frédéric Bell, donc, c'est Isabelle. Émilie Kahn, c'est Ségolène. Élodie Fontan, qui joue Laure. Et c'est Alice David, qui va jouer le rôle d'Odile. C'est là qu'il y a eu un petit changement. Elle s'appelait la première qui jouait. Ah oui, mais c'était. Oui, attendez, on va voir un petit peu plus loin. Hein. Donc on a, je l'ai dit, on a Pascal Nzonzi et Salimata Kamate qui sont les parents qui sont les monsieur et madame Kofi. Qui sont les parents de Charles. Ensuite, on a Daniel Russo, qui n'était pas là hein, dans le premier, avec Nanou Garcia, qui sont les parents de David. On a, c'est-à-dire Isaac et Sarah Benichou. Ils sont tous de retour. Et puis, ensuite, La suite des acteurs, parce que là, c'est là que ça se corse un peu. On a Abbès Zamani et Farida Houchani, qui sont Mohamed et Mokhtaria Benassen, qui sont les parents de Rachid. Et puis on a Bing Yin, c'est pas faux pouvoir le prononcer, et Li et Ling, qui sont donc les parents de Chao, Dong Ling et Zhu Ling, hein, de Chao Ling. Et puis on a, alors Helmut, le jeune Allemand, qui est le méchant du film, est joué par un acteur allemand qui s'appelle Rochen, Hagel. Et la coiffeuse, c'est Amélie Prévost qui joue. Alors, du côté des nouveaux, hein, c'est ce que je disais quand même, il y a Daniel Russo, ça je l'ai déjà dit, Nanou Garcia, très connu, on a Abbès Zamani et Farida Houchani, qui sont très connus également, et on a Li Eling et Bing Ying, qui sont, la première est actrice, une actrice chinoise, et Bing Ying est un acteur franco-chinois. Voilà. Est-ce qu'on a compris, là, Damien ?
Oui, oui.
C'était très compliqué,
quand même. Ben, en même temps, le casting est grand, donc c'est compliqué.
Alors, oui, Alice David, qui joue donc le rôle de le nouveau, enfin, c'est la nouvelle arrivée, qui joue Odile, qui remplace Julia Piaton. Hein. Julia Piaton était indisponible, elle n'a pas pu revenir dans ce troisième opus. C'est la quatrième fille, Odile, bon ben voilà. Mais Alice David est très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le film s'achève sur la chanson 100% de Johnny Hallyday, qui a été écrite par son fils David. C'est une référence en fait au lien de sang de toute cette famille, voilà. De ces gens qui sont finalement une famille qui va finir par s'entendre absolument bien, voilà, grâce à des liens de sang, c'est ça. Bon. Donc c'est cette chanson que tout le monde connaît, 100% quand même, je pense qu'on l'a tous entendue.
Tout à fait.
Le tournage, par contre, il y a eu malheureusement un gros malheur. Le tournage a été fortement endeuillé par le décès de 3 machinistes de 19 ans, 47 ans et 49 ans, lors d'une collision le vendredi 23 avril 2021 vers 20h30, à peu près à Point, c'était sur la départementale 65 de Vienne. Voilà. Ça, c'est exact, l'endroit où ça a eu lieu s'appelle Point, c'est le village de Point, voilà. Et oui, ça a été terrible pour tout le monde, là. Malheureusement, c'est comme ça. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a tous fait, mon Dieu ? Ben, pour ceux qui ont aimé les deux premiers, évidemment que le troisième est pour eux, hein, y a aucun souci. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas les deux premiers, hein, eh ben, pourquoi pas découvrir cette famille, justement, dans ce troisième opus. Voilà, pourquoi pas, hein, ma foi. C'est un casting extrêmement sympathique. Ils sont tous de retour, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Pour ça.
Qu'est-ce qu'on a tous fait, oh bon Dieu. Et maintenant, c'est avec Ryusuke Hamaguchi que l'on retrouve les contes du hasard et autres fantaisies.
Et voilà. Alors, mais c'est ça, je l'ai nommé tout à l'heure quand je parlais des Oscars, justement. Je disais qu'on allait en parler de ce réalisateur, grand réalisateur, scénariste, acteur japonais. Il s'agit des contes du hasard et autres fantaisies, oui. Il y a du drame, il y a de la romance, c'est japonais, ça dure 2h01. Alors il y a un prix et 7 nominations à la Berlinale 2021, c'est le grand prix du jury L'Ours d'Argent. Et puis il y a aussi un grand prix aussi au Festival des Trois Continents à Nantes 2021, compétition internationale, c'est la Montgolfière d'Or qui est le prix du public. Pour les contes du hasard et autres fantaisies. Alors, c'est quoi ? C'est un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un malentendu. C'est la trajectoire de 3 femmes qui vont devoir faire face à un choix. Voilà. Il y aura un choix et elles vont devoir justement choisir. C'est 3 femmes. On a Kotone Furukawa, c'est que des actrices japonaises, là. On a Fusako Urabe et dans le rôle de ces 3 femmes. On a Yunri, qui est également l'actrice japonaise. On a Aoba Kawai, une autre actrice japonaise. On a Kiyoko Shibukawa, qui est un acteur japonais dans les rôles principaux. Alors, c'est titré le plus beau film de la Berlinale. Hamaguchi, maître des mots et de la mise en scène. Un sommet, une splendeur, la nouvelle merveille du réalisateur. On lui doit, alors là, ben c'est pour ça qu'on en a parlé pour les Oscars, il se présentait aux Oscars avec son film « Drive My Car », qui a eu un succès extraordinaire, et 6 prix, 15 nominations, adapté d'un extrait du recueil « Des hommes sans femmes » de Haruki Murakami, et qui est un auteur, il a 73 ans, c'est un écrivain contemporain japonais. Il est auteur, en fait, ce monsieur, de romans à succès. Voilà, il a écrit également des nouvelles, des essais, et c'est l'un des plus lus au monde. Il est traduit en 50 langues à peu près, ce monsieur Haruki Murakami. J'ai dit Murakami, c'est Murakami. Il est déjà, voilà. Et Drive My Car, donc voilà, il était déjà détenteur, lui, du prix du scénario à Cannes, hein, Drive My Car, déjà, de Rizuki Hamaguchi. Voilà, très très beau film, Contes du hasard et autres fantaisies.
Et nous poursuivons la conversation autour du cinéma avec les films qui sortent cette semaine. Et là, c'est Manuel Nieto-Zaz que l'on retrouve avec le film Employé / Patron. Employé-Patron.
Ah ah ! Employé-Patron, oh là là, quel titre ! Mais oui, ça dure 1h46, c'est un drame, thriller, hein, c'est uruguayen. C'est argentin, c'est brésilien et c'est français. Tout le monde s'y est mis. Et le film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2021. Alors en fait, Manuel Nieto-Zaz, tu l'as dit, c'est un réalisateur-producteur uruguayen. Il a 50 ans, il a 16 ans de carrière, 4 tournages à son actif. Ça, c'est son 4e long métrage, Employé Patron. Il fait partie, en fait, de la nouvelle génération du cinéma uruguayen. Il a déjà, ben oui, il a déjà 2006, c'était 2005, c'était La Pereira, c'était une comédie dramatique, ça veut dire Le Chenil, en fait. C'était présenté d'ailleurs aux Rencontres de Toulouse, au Ciné Latino, La Pereira, en 2005. 2014, c'est Le Lien du Fils, El Lugar del Hijo. C'était écrit et produit par lui, hein, par Manuel Nieto-Zaz. Ah ben oui, j'avais oublié, 2006, c'est son premier long-métrage, La Meute. C'est écrit et produit par Manuel Nieto-Zaz. Ce film reçoit le prix Tiger au festival... Oula, je suis trahie là. Au festival de Rotterdam. Donc c'est quelqu'un qui est habitué, hein, au prix, ma foi, et être très bien reçu dans les festivals. C'est l'histoire d'un petit patron agricole préoccupé par la santé de son bébé et qui tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, récemment agrandie. Un jour, un terrible événement advient sur la plantation. On ne va pas en dire plus, évidemment. On a Christian Borges, qui est un acteur argentin dans les rôles principaux. Alors, on a Nahuel Pérez Biscayar, argentin également. On a Justina Bustos. De toute façon, là, je n'ai que des acteurs argentins. On a Fatima Quintanilla. Et il y a un franco-argentin, c'est Jean-Pierre Noer, dans les rôles principaux. Très, très beau film. 1h46, je l'avais dit, je pense. Employé, patron.
Et nous retrouvons maintenant Audrey Estrougo à la réalisation du film À la folie.
Ah et oui, À la folie. Ça fait penser à la marguerite qu'on effeuille. Hein, je t'aime un peu beaucoup. À la folie. Ah mince, il n'y a pas du tout après. Ah, le dernier, il ne faut jamais l'arracher, mes chéris, jamais. Il faut s'arrêter avant, surtout si vous êtes à côté de celui ou de celle à qui vous faites la déclaration. Alors, on cache la marguerite et on n'arrache pas la dernière, comme si elle n'était pas là. À la folie, mais oui. Mais là, c'est un drame français. Moi, je suis désolée, ça m'a fait penser à la Marguerite. C'est complètement idiot, mais c'est comme ça. Ça dure 1h22. Alors, Audrey Estrougo, c'est une réalisatrice, scénariste, productrice. Elle est française, elle a 39 ans, 14 ans de carrière. Elle a commencé toute petite. Elle a 9 tournages à son actif et 3 nominations. Ah, alors on lui doit... Ah oui, mais celui-là, justement, je ne dis pas qu'on en avait parlé, mais il est repassé plusieurs fois à la télévision. C'était en 2016, La Taularde, avec Sophie Marceau, Anne Leny dans les rôles principaux, qui avait une nomination avant-première à Angoulême. La Taularde, quand on aime Sophie Marceau, on essaie d'avoir ce DVD quand même, ouais, de le trouver, parce que là, elle fait un numéro quand même... assez épatant et surtout très très différent de ce qu'elle a fait autrement, Sophie Marceau, dans La Taularde. Et puis en 2021, c'était Suprême. Alors Suprême, ça parlait de qui ? Bah, de Joe Star et de Cool Chen, qui étaient représentés par des acteurs, Théo Christine et Sandor Funtek. Celui-là, on en avait parlé, tu t'en souviens sûrement, Damien, parce que je crois que t'aimes bien, toi. Alors, Joe Star et Cool Chen, donc c'était leur histoire. Il y a une nomination à Cannes en 2021. C'était dans la catégorie séance de minuit. Donc, Audrey Estrougo fait quand même du bon boulot. Alors, à la folie, ben, c'est quoi ? Pour fêter l'anniversaire de sa mère, Emmanuelle, c'est-à-dire c'est une jeune fille, vient pour quelques jours dans la maison de son enfance. Je précise parce qu'Emmanuel est un prénom qui peut être aussi masculin. Voilà. Elle y retrouve le temps passé et les souvenirs qui règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur aînée, Nathalie, dont l'instabilité psychologique a trop souvent affecté les relations familiales. Personne ne se doute que cette fête de famille va rapidement prendre une tournure inattendue. Alors, il a été présenté, le film, au Festival international de Varsovie, au Festival international du film à Saint-Jean-de-Luz et au Zagreb Film Fest, The Great Five. Et donc, il a été présenté et ça s'est très bien passé, évidemment. Alors, on a dans les rôles principaux Virginie Van Robby, qui joue Emmanuelle, qui est une actrice belge. On a Lucie Debay, qui joue Nathalie, la sœur, qui est une actrice belge également. La maman est une actrice belge, Anne Coessens. On a également, qu'est-ce qu'on a ? On a le père. Alors le père, c'est François Creton, c'est un acteur français. Et puis Théo Christine aussi, qui est un acteur français. Et Benjamin Sixou, qui est un acteur français. En fait, on les connaît. Hein. Et on revoit Théo Christine, dont on a parlé là tout de suite pour le film Suprême 2021, qui jouait le rôle de Joe Star. Donc il est également dans ce film À la folie. En fait, c'est presque autobiographique. Ça. Il y a des résonances autobiographiques dans ce film par rapport à Audrey Estrougo. En fait, c'était un petit frère qui était malade, alors que dans le film, c'est une petite sœur, enfin une sœur, oui, plus jeune. Ouais. Elle nous dit, Audrey Estrougo, qu'elle a essayé de prendre du recul en pensant que si elle s'attachait à la trajectoire des deux sœurs, ce serait plus simple pour en parler, avec davantage de pudeur et du respect vis-à-vis de son frère. Oui, je pense qu'effectivement, elle a eu raison, là. Elle avait envie de faire un film avec une équipe toute nouvelle et de se mettre en danger et de se renouveler avec ce film. Et dans le rôle principal, elle a choisi Virginie Van Robby, hein, que je viens de citer, qui n'avait jamais joué de sa vie. C'est donc son premier rôle. Elle s'était inscrite, nous dit la cinéaste, à une masterclass que j'ai donnée il y a 2 ans. J'ai tout de suite été impressionnée par sa présence et par sa grande capacité d'écoute. De fait, elle est très juste, car elle sait écouter son partenaire. C'est une fibre d'acteur qui me parle. Voilà, donc, c'est bien, elle dit. Elle n'a pas été déçue par ce premier rôle de cette actrice. Maintenant, c'est une actrice. Elle avait déjà travaillé, Audrey Estrougo, avec Benjamin Sixou. Et puis, évidemment, avec Théo Christine. Dans le biopic suprême de Joe Star. Donc c'est un très beau film, bien sûr. Elle fait vraiment du bon cinéma, cette jeune femme, 39 ans, pas mal, à la folie.
Voilà donc pour le film d'Audrey Estrugo. Et maintenant, c'est Clara Roquette que l'on retrouve avec oui. Libertad.
Oui, alors Libertad, ça dure 1h44, c'est un drame espagnol et belge. Il y a 5 nominations au Festival de Cannes 2021 et à la Semaine internationale de la critique 2021. Clara Roquette, oui, réalisatrice, scénariste espagnole. Elle a 34 ans. Encore plus jeune que la précédente. Elle a 7 ans de carrière, 4 tournages. Donc, en fait, c'est des courts-métrages puisque elle a tourné, en fait, elle a travaillé comme scénariste sur des longs-métrages. Elle a réalisé des courts-métrages et là, c'est son premier long-métrage, Libertad. Nous sommes en Espagne et c'est l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans. Et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux filles que tout oppose. Et oui, nous, une grande amitié, profonde même, qui marquera leur entrée dans l'adolescence. On a Maria Moreira qui joue Nora, actrice espagnole. On a c'est Nicole Garcia, ne pas confondre évidemment, on pense à Nicole Garcia, mais ce n'est pas du tout elle. C'est Nicole, c'est-à-dire il y a deux L à Nicole, et avec un accent, et Garcia qui est une actrice colombienne. Donc rien à voir avec notre grande actrice française, Nicole Garcia. On a Vicky Peña qui est une actrice espagnole, Nora Navas, espagnole également, Carlos Alcaide, qui est un acteur espagnol. Et on a une autre actrice espagnole dans les rôles principaux, Carol Hurtado, dans ce très beau film. Il y a eu pas mal de premiers longs-métrages cette fois, il me semble, non ? Ça doit être le deuxième ou le troisième, là, premier long-métrage. C'est bien, on fait la connaissance de nouveaux réalisateurs qu'on ne connaît pas suffisamment encore, évidemment. Et c'est très, très agréable, ça. Alors, Clara Roquette, elle a grandi dans une ville conservatrice du nord de la Catalogne, dans une famille bourgeoise qui croyait fermement aux valeurs des liens familiaux. Alors du coup, au cours de son adolescence rebelle, évidemment, elle a réalisé que bon nombre des conventions familiales étaient fondées sur des mensonges. Alors, elle nous dit que ces dernières années, elle a vu sa propre famille se désintégrer après la mort de ses grands-parents. Elle nous dit que j'ai eu une enfance privilégiée parmi des familles catholiques catalanes de la classe moyenne. C'est pourquoi mon premier contact avec ce que j'appelais alors l'altérité a été crucial pour moi. Lorsque ma grand-mère est tombée malade du cancer, ma mère a engagé une bonne Colombienne pour s'occuper d'elle. C'était le début d'une vague d'immigration massive en Espagne. Elle s'appelait Claudia. Elle était jeune, environ 25 ans, même si, de par ses expériences de vie, elle semblait beaucoup plus âgée. C'est pour ça, je parle de ça parce que ça nous ramène au film, hein, complètement, ce qu'elle est en train de nous dire là. Elle avait une fille, cette Claudia là, qui était sortie avec plusieurs hommes, qui avait travaillé dans beaucoup d'endroits différents et qui avait enterré sa propre mère. Pendant quelques étés, je l'ai suivie partout, écoutant ses histoires sur la vie, les hommes, le sexe et l'amour. Et elle a pris soin de ma grand-mère jusqu'à sa mort. Claudia, donc, a été une présence importante dans ma jeunesse et tout au long de ma vie. Et elle reste toujours une amie proche. Alors, le film, en fait, se déroule à la Costa Brava, qui est située donc au nord-est de la Catalogne. On connaît quand même la Costa Brava. C'est certainement le coin d'Espagne le plus connu par les Français, je pense. Il y a beaucoup de touristes français là-bas l'été. Donc c'est un endroit qui a été le lieu de villégiature traditionnelle de la bourgeoisie catalane pendant des siècles. Mais maintenant, bon, la Costa Brava a été, et maintenant elle est conquise, hein, par le tourisme de masse, c'est ce que je venais de dire. Elle nous dit d'ailleurs, la réalisatrice, la lente dégradation et la perte d'identité de ces villes balnéaires qui apparaissent désormais comme des répliques kitsch de célèbres plages tropicales est un élément essentiel dans l'esthétique du film, le film dont on parle en ce moment. Et on a tourné, nous dit-elle, dans des décors réels. On s'est plongé dans la vie nocturne de Lauré de Mar dans une approche de documentaire grâce à de petites caméras portatives qui ont permis aux acteurs d'improviser avec leur environnement. Voilà. Nous voulions que cette vision de leur monde soit sale et réelle. Et oui. Et Nicole Garcia, l'actrice colombienne, en fait, on l'a trouvée, elle nous dit qu'elle l'a trouvée donc en Colombie, et elle a vécu quelque chose, cette actrice, de semblable au parcours de Libertad, l'héroïne du film, dans, justement. Et nous avons trouvé, alors Carole Hurtado, elle a un passé similaire à celui du personnage en Espagne, puisqu'elle est espagnole. Donc elle a un passé qui ressemble absolument un personnage aussi du film Libertad. Il est vraiment très intéressant ce film, vraiment, Libertad.
Et pour terminer la semaine, nous vous présentons une réalisation de Paco Plaza, ça s'appelle Abuela. Abuela, c'est la grand-mère. Alors,
oui,
on
Abuela,
parle de quelle grand-mère ?
Non, c'est la grand-mère. Bah, ça, c'est de l'épouvante quand même, là, hein, dans le film, pas n'importe quelle grand-mère, celle qu'on ne souhaite pas forcément avoir, je pense. Alors qu'on adore les grand-mères, mais alors celle-là, pas sûr. Qu'est-ce que t'en penses, Damien ? Tu la prendrais un peu chez toi ?
Je ne sais pas, je n'ai pas vu du tout Abuela. Alors, de quoi ça nous parle ?
On reste en Espagne, en fait, hein, quasiment, puisque c'est espagnol et français. Il y a un prix et 4 nominations pour ce film. Alors, Paco Plaza, oui, tu l'as nommé, c'est un réalisateur, scénariste, acteur espagnol. Il a 49 ans, il a 26 ans de carrière, 22 tournages, dans lesquels on peut englober 5 courts-métrages et une série télévisée. Il a donc, dans sa carrière, il a eu 3 prix et 9 nominations. Et pour son premier film, alors, le film, malheureusement, qui n'est pas sorti dans les salles, REC, R-E-C, qui est sorti en 2000 en VOD, il a eu quand même 3 prix, 3 nominations au Festival de Gérard Mer. Il y a eu 2 nominations à la Mostra de Venise et il y a eu une nomination au prix du cinéma européen pour ce film en VOD qui s'appelait REC, sorti en 2000. Les sujets principaux du film dont on parle, là, dont on va parler, sont la peur du temps qui passe et la vieillesse. C'est interdit au moins de 12 ans, ça on le dit, c'est fait, ça y est, on le note. Susana, une jeune mannequin espagnole, est sur le point de percer dans le milieu de la mode parisienne. Mais quand sa grand-mère est victime d'un accident, la laissant quasi paralysée, Susana doit rentrer à Madrid dans le vieil appartement où elle a grandi afin de veiller sur celle qui constitue son unique famille. Alors qu'approche leur anniversaire, de vieux souvenirs ressurgissent en parallèle d'événements étranges. Le comportement de sa grand-mère devient de plus en plus inquiétant. Eh oui, c'est là qu'on sait qu'il y a un gros mystère autour de la grand-mère. On ne va pas en dire plus, hein, parce qu'après vous n'aurez plus assez les chocottes si on raconte trop. Or, il faut avoir les chocottes quand on regarde ce genre de film. Surtout que Paco Plaza, quand même, il fait de bonnes choses dans ce domaine. Hein. Alors, dans les rôles principaux, on a Almudena Amor, qui joue Susana, qui est une actrice espagnole. On a une actrice brésilienne qui joue Pilar, la grand-mère, c'est Vera Valdés, qui a 85 ans. Alors, elle est très connue hein, au Brésil comme actrice. Ah bah oui, elle a commencé il y a très très longtemps. Elle a d'abord été mannequin et puis elle est devenue actrice. Elle est très très célèbre. On a Karina Kolokolchkova, qui est une actrice ukrainienne. Et puis on a une chinoise également, une actrice chinoise, Sasha Wang, dans les rôles principaux. Abuela, grand-mère. Eh oui, sacrée grand-mère quand même. C'est quand même. Hein, c'est une sacrée grand-mère. On n'a pas de grand-mère comme ça. T'en as pas, toi, comme ça, très mystérieuse, qui fait peur un peu.
Non. Non,
non hein, les grand-mères font pas peur quand même. Normalement. Voilà pour cette semaine, ma foi.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Anne pour ces sorties cinématographiques et on se retrouve mercredi prochain à 11h dans la conversation autour du cinéma.
Ok, mais oui, on se retrouve, mais bien sûr. Merci, merci Damien. Hein, merci à toi, merci pour ton aide, pour tout ça. D'être là comme ça, c'est sympa et tout, et puis voilà. Je te remercie. Et puis vous, mes chéris, écoutez, on vous remercie aussi hein, d'être là pour nous, pour Radio Entre Deux Mers, pour toutes les émissions que vous pouvez écouter sur notre radio et toutes ces belles musiques et tout. Oh, on a beaucoup de belles choses sur Radio Entre Deux Mers. Puis surtout, je vous souhaite une bonne semaine et soyez heureux. Hein, soyez heureux. Vivez bien votre journée, carpe diem, du matin au soir. Profitez-en. Voilà. Ben, restez encore un petit peu. Oh, ben, faites encore un petit peu attention. Hein, pour vous, autour de vous, tout ça. Bon, pour l'instant, on est libéré. Hein, on respire un peu. On en profite, sans le masque. Un petit peu quand même. Allez. Bon, de toute façon. Ça n'empêche que moi, je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.